das. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
So, so, gloss, so, so, da.
Eloé.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aigo et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir Sokolé, bonsoir Bafilo, Dapaon, Mango, Bassar, bonsoir Vogan, Chevier, Kalimé, Anero, bonsoir Lomé, et bonsoir aux vaillants combattants, peuple togolais, qui est sorti encore nombreux aujourd'hui à l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Et puis justement pour demander le départ immédiat de Fornian Singbe. Amis panafricains, bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et ses radios partenaires, Radio à Volonté. La voix de la résistance du peuple togolais, FM Liberté Radio Dénigrement, toute basée aux États-Unis. Et bien ce soir, dans notre rubrique Débat citoyen, le thème: dans ce contexte de révolte populaire légitime au Togo, la France doit-elle suspendre sa coopération policière et militaire avec le Togo? Nous allons en débattre avec deux membres de la diaspora togolaise. Et face à la grave crise sociopolitique au Togo, une coalition de la diaspora est créée samedi dernier à Paris sur fond de polémique. Quels sont les objectifs réels de cette coalition? Nous en parlerons également avec deux responsables de la diaspora, membres de cette coalition. Ils seront en ligne depuis la France et le Canada. Merci de nous être fidèles. Et pour vos auditrices, auditeurs, câbles sur le 3xW. Canalka.ch, ses radios partenaires, nous marquons une pause avec cette chanson de Bibi Rennes, Soso Glosso, et ses spéciales dédicaces à toutes et à tous. Bonsoir.
Soso Glosso Zando, Elole. Soso Glosso Zando, Elole. So so glosso mi bea e lo salado mi mi la sudo e tutu la sudo lo
Eh bien, mes auditeurs, avant de prendre nos invités, parlons de la mobilisation du peuple togolais, sa diaspora. Et justement, une information est parvenue à notre rédaction il y a quelques heures. Des manifestants togolais ont été arrêtés ce matin à Accra. Pour en savoir un peu plus, nous accueillons en ligne Farida Nabourema, activiste politique. Farida Nabourema, bonsoir.
Bonsoir Amos et bonsoir à tous vos auditeurs.
Eh bien, Farida Nabourema, nous venons d'apprendre que la manifestation organisée à Accra ce matin par Bernard Mona, un activiste ghanéen, en soutien à la lutte que mène le peuple togolais a été non seulement interdite, mais des manifestants togolais, y compris le ghanéen Bernard Mona, sont arrêtés par la police ghanéenne. Farida Nabourema, vous êtes allé aux nouvelles. Est-ce que les organisateurs ont reçu l'autorisation à manifester?
Merci pour votre question, Sylvain Amos. Oui, c'est vrai que la manifestation organisée par un groupe de solidarité ghanéen sur le Togo a été dispersée et des manifestants ont été arrêtés, y compris Monsieur Bernard Mona, qui est le président du parti appelé PNC et qui a convié à la manifestation. Eh bien, vous savez, le Ghana, comme le Togo et la plupart des pays de la CEDEAO d'ailleurs, opère sous le système de l'information et non de la permission quand il est question des manifestations publiques. Ce qui veut dire que quand vous voulez manifester, vous informez les autorités à travers une lettre et une annonce officielle. Et si les autorités avaient des problèmes ou souligne des problèmes par rapport à votre manifestation, il se réserve le droit de vous informer que votre manifestation ne peut avoir lieu à la date donnée, dans les conditions données. Et maintenant, vous avez le devoir de répondre à la police dans un délai de 48 heures, de si oui ou non, vous voulez continuer avec la manifestation ou pas. Ça, c'est selon la loi ghanéenne. Leur Public Order Act, la section 1, dit clairement qu'il faut notifier la police dans un délai de 5 jours avant la tenue d'une manifestation. Et si la police a un problème avec cette manifestation, elle vous notifiera dès que possible et à vous de lui répondre en 48 heures si vous voulez continuer avec la manifestation ou non. Maintenant, si dans ce délai de 48 heures, vous informez la police et que la police veut toujours annuler la manifestation, elle a le devoir d'avoir recours à un juge, de saisir un juge pour obtenir d'un juge le mandat de prohiber et de la manifestation. Ce qui n'a pas été le cas dans notre cas ici. Ça n'a pas été le cas avec les Togolais qui manifestent à Accra. Et si c'est aujourd'hui, c'est pas seulement les Togolais parce que et les Togolais et les Ghanéens ont été arrêtés.
Tout à fait.
Quand j'ai contacté Monsieur Bernard Mona, il m'a informé que le commandant de police de la police de Nima lui a fait savoir que les ordres venaient d'en haut. Et cet en haut serait le ministère de la Sécurité. Ce qui veut dire que ce n'est pas ici une question de non-conformité avec la loi du Ghana, c'est une question politique. Le commissaire dit avoir ses mains liées et donc il ne fait que suivre les ordres de ses supérieurs. Alors, il faudrait que l'on se pose des questions pour savoir quels sont les objectifs, les intentions réelles de ses supérieurs. Les manifestants ont suivi la procédure, les organisateurs ont également suivi la procédure. La police ne s'est pas opposée à la tenue de cette manifestation. Il est donc inconcevable que l'on procède à la dispersion de cette manifestation et à l'arrestation des manifestants.
Merci. En tout cas, merci beaucoup Farida Nabourema de nous avoir expliqué ce qui s'est réellement passé ce matin à Accra au Ghana. On le disait, cette manifestation a été non seulement interdite, mais des compatriotes togolais et le Ghanéen, l'activiste ghanéen Bernard Mona a été également arrêté. Mais jusque-là, on ne sait pas si ils sont déjà libérés. Merci beaucoup, Faïda Namburema, et bonsoir.
Radio Denigbon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalka.ch, c'est Radio Partenaire, Radio Avolété, la voix de la résistance du peuple togolais. On l'avait annoncé, le débat citoyen, le thème. Dans ce contexte de révolte populaire légitime au Togo, la France doit-elle suspendre sa coopération policière et militaire avec le Togo? Nous en débattons tout de suite avec deux membres de la diaspora togolaise. Nous accueillons d'abord Kofi Nyazozon, il est juriste, il est également membre du mouvement Nubweke Diaspora. Kofi Nyazozon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Sylvain Amos.
Merci de nous accompagner. Nous avons également en ligne depuis le Canada, justement, Tché Nyamasadi Losonelou, il est le président du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau. Tché Nyamasadi Losonelou, bonsoir et merci de nous accompagner également en ligne depuis Canada.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique et aussi à Radio Canal Câble. Et je crois que c'est une belle opportunité de pouvoir débattre de ce sujet important et je salue tous les compatriotes qui militent au Togo pour l'alternance et le départ immédiat de Faure Gnassingbé du pouvoir.
Merci beaucoup. Là, vous avez assisté, hein, ça, jeudi ou vendredi dernier, ou c'était mercredi, je me rappelle pas, à Nantes, justement, c'est ça, Kofi Nyazozon, c'était jeudi, hein, c'était ou mercredi?
C'était mercredi, oui.
Oui, c'était mercredi, donc vous avez assisté avec l'association Survie, hein, Survie de la France, qui demande, hein, la suspension pure et simple de la, de cette coopération policière et militaire avec le Togo. Et là, la France et toutes les, et beaucoup de pays dans l'Union européenne, en toutes circonstances, sur le long chemin de la lutte des Togolais, appellent au calme et au dialogue. Et en même temps, la France continue d'armer la police et l'armée togolaise connue pour tourner leurs armes principalement contre les populations. Kofi Nyazozon, et à quoi joue la France? C'est la question qu'on se pose, Kofi Nyazozon.
Alors, Monsieur Amos, il y a lieu de faire un bref rappel historique qui est de dire que la France a toujours été très intime sur le plan militaire avec le Togo en raison de la plaque tournante que constitue le Togo dans la sous-région. Donc, il est vrai que depuis 58, il y a les accords de défense, dits de défense, qui consistent pour la France à maintenir l'ordre interne au Togo, ainsi que à le protéger contre toute forme d'agression extérieure. Et donc, ces accords-là ont également permis, d'autre part, qu'on puisse diligenter ou envoyer au Togo, eh bien, des coopérants, en vue d'asseoir une assistance militaire, technique et aussi un soutien logistique. Donc, aujourd'hui, hier, c'était pour officiellement donc protéger les territoires français donc contre les agressions extérieures, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus habillé en disant que c'est pour renforcer donc la force de l'Union africaine pour que l'Afrique puisse donc au niveau régional se défendre, régler par elle-même ses propres problèmes. Donc effectivement, quand on regarde en profondeur cette coopération ou ces accords, on observe qu'au Togo en particulier, la France joue un rôle majeur, sauf d'autant plus que nous avons vu lors des répressions qui ont prévalu depuis le 19 août dernier que le matériel militaire utilisé pour réprimer la population est fourni par des entreprises françaises. Et rappelons pour finir que le Togo demeure aujourd'hui le troisième partenaire de la France en termes d'achat d'armement. Donc nous dépensons au Togo près de 2 à 4 millions par an pour nous équiper. Et donc cela interroge naturellement sur le rôle de la France au Togo, surtout en ce moment crucial.
Tout à fait. Eh bien, Tché Nyamasari Losonelou, vous avez suivi la réaction de Kofi Nyazozon. Il est juriste, je le disais. Il est membre du mouvement Nubweke Diaspora. Il est également membre du groupe Financier d'Afrique. J'avais oublié de le mentionner. Et là, Tché Nyamasari Losonelou, dans ce contexte de révolte populaire légitime au Togo, la France doit-elle suspendre sa coopération policière et militaire avec le Togo? Quelle est votre réaction là-dessus?
Ben, d'abord, je vous remercie de poser cette problématique qui demeure au cœur du système de répression de la volonté populaire des pays africains à accéder à leur souveraineté. Et nous savons effectivement que la France, depuis le temps colonial, donc si nous voulons ramener un peu de perspective historique, pour certains pays, justement les pays que la France a colonisés, établit un système de répression contre les populations de ces pays pour les maintenir dans une forme d'exploitation. Et à l'indépendance donc de ces pays-là, ce système répressif a changé de nature et donc est devenu ce que nous savons aujourd'hui comme armée et police dans ces pays. Et la coopération, donc l'assistance de la France est changée en accord de coopération changé, censé protéger ces pays pour les aider à mettre en place leur système de défense, de police et de gendarmerie. Mais ce que nous voulons relever là-bas, c'est qu'il y a un héritage colonial qui est celui de la répression systématique des peuples africains. Le cas du Togo s'est démarqué essentiellement avec le premier coup d'État en Afrique qui a consisté à éliminer de la part donc de cette soldatèque qui est censée justement défendre la souveraineté du Togo, qui a éliminé donc le premier président démocratiquement élu, le président Sylvain Olympio. Donc depuis une cinquantaine d'années, on a vu donc que l'armée togolaise a pris le pouvoir à travers donc le feu général Yadema et ensuite à sa mort dans des conditions complètement rocambolesques. Cette même armée est encore intervenue de façon fracassante, antidémocratique et contre toutes les principes de droit, en violation flagrante de la loi fondamentale qui est la constitution du Togo, en proclamant Manu Militari, le fils de Yadema, et qui tient les rênes jusqu'à présent, qui refuse justement d'obéir à la volonté populaire, celle de quitter le pouvoir selon la demande de tout l'ensemble du peuple togolais. Donc, vous allez voir donc que dans cette séquence-là, effectivement, le rôle de l'armée ou des forces de police est crucial et est au cœur justement de toute la lutte démocratique au Togo. Maintenant, la question qu'on se pose et qui est tout à fait fondamentale, c'est devant la répression systématique, la violation des droits de l'homme massive. On a vu ça en 2005, le rapport de l'ONU et plus de 1000 morts selon donc les autres ONG, et depuis le 19 août, on a vu déjà plus de 573 personnes qui ont été habituellement arrêtées, 120 personnes qui sont toujours en prison actuellement, et plus d'une vingtaine de morts. Devant ce bilan macabre, il est clair qu'il faut donc interroger la responsabilité de la France, parce que comme l'a souligné tout à l'heure mon collègue, l'assistance militaire à l'armée togolaise se traduit par 14 officiers français qui encadrent l'armée togolaise et tous leurs équipements également viennent de la France.
D'accord.
Et en plus de ça, effectivement, il y a non seulement, et c'est un fait nouveau, ce n'est plus l'État français qui fournit et qui nourrit en termes de marché l'armée togolaise, mais aussi des sociétés privées françaises qui sont, c'est un marché pour eux qui fournissent du matériel de l'armement et du munitions donc à l'armée française. Donc la France doit, dans cette crise-là, n'est-ce pas, revoir donc sa coopération avec le Togo.
D'accord.
Pour que ces ces éléments ne soient pas foulés pour tuer la population togolaise. Donc, la question de morale, la question des droits de l'homme et des droits de cette
intervention. Tout à fait. Et justement, Kofi et Ignace Ozon, vous l'avez dit, mercredi dernier, vous avez co-animé une conférence avec l'association Survie en France. Et là, l'association Survie, je l'avais dit, suspend, demande la suspension pur et simple de la coopération policière et militaire avec le Togo, justement, pour de la France. Et là, est-ce que vous connaissez cette association-là? Quelle est vraiment la position de l'association Suivi Togo, Suivi France par rapport à la situation qui prévoit actuellement au Togo?
Alors, la position de l'association Suivi, elle est très simple. Elle porte à avoir un regard un peu plus démocratique sur la politique de manière générale africaine de la France. Et donc, en particulier, lorsqu'on arrive sur les accords de défense, il faut relever qu'en France, ces accords n'ont jamais été d'une transparence totale. Ce n'est qu'à partir des années 2011 que l'Assemblée nationale, par exemple, a commencé par voir un peu plus près sur ces accords-là, puisque c'est à ce moment qu'ils ont été révisés. Donc, l'association Survie se veut donc un regard neuf sur la situation, de sorte à ce que ces armes ne soient pas utilisées, ou du moins ces accords ne soient pas utilisés dans un rôle déviant, c'est-à-dire qu'on puisse les utiliser pour réprimer les populations et donc asseoir un gouvernement ou un pouvoir dictatorial, puisque de tout temps, c'est ce qui a eu lieu, par exemple, au Togo, si on veut nommer les choses. Donc voilà un peu le raisonnement, ou du moins la posture de Survie France.
D'accord.
Quant à aux accords d'assistance militaire technique et de soutien logistique qui lient la France, d'accord, par exemple, au Togo.
Kofi Ndiaye Ozon, est-ce qu'au cours de cette conférence que vous avez co-animée avec l'association Survie France, est-ce que vous avez abordé les questions autour de l'achat des 5 hélicoptères que la France devait livrer au Togo?
Oui, nous l'avions abordé. Nous l'avions abordé.
Dans quel sens?
Il faut relever qu'aujourd'hui, la décision appartient donc au gouvernement d'Edouard Philippe, donc de M. Macron. C'est à eux de décider, c'est au Premier ministre, d'acter cette vente-là. Donc, pour le moment, on fait le mort sur le sujet, mais il apparaît essentiel que nous puissions brandir, ou du moins agiter le drapeau, de sorte à ce que cette vente n'intervienne pas. Puisque cette vente, au fond, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il ne faut pas oublier que les sociétés privées, telles que ACMAT, Protecop, PanArt, continuent de vendre des armes au gouvernement en place. Donc, ça veut dire que nous avons un rôle prépondérant à jouer quant à la vente de ces hélicoptères qui ne doit pas se faire, ce d'autant plus qu'aujourd'hui, le Togo n'est pas du tout en guerre. Et donc, on n'a d'ailleurs pas des sous à injecter dans cet achat, puisque la fracture sociale se fait profonde.
Tout à fait. Eh bien, Thierry Nyamasaré Losonelou, vous qui êtes le président du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau, vous nous accompagnez en ligne depuis Canada et vous écoutez, Emmanuel Macron disait tout récemment à Ouaga, un tatiné dans la verre du discours de la boule, il dit que la France ne sera désormais plus que derrière ou aux côtés des pays ayant opté pour la démocratie. Thierry Nyamasaré Losonelou, comment cela se traduit-il dans ses relations avec le Togo?
Je pense que c'est une très très bonne question. Mais avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir sur la conférence de Survie. En fait, j'étais à Paris la semaine passée, puis j'ai eu la chance de participer effectivement à une conférence animée par le président de Survie Togo, Thomas Borel, et aussi l'un des sommités togolais en termes de sciences politiques, M. Komi Touraban, sur effectivement après 50 ans de dictature, de néocolonialisme de la France, est-ce que le Togo bientôt libre? Et au cours de cette conférence, l'association Survie a été très claire, et je pense que nous soutenons leur position. Ils demandent la suspension, et je le lis à l'instant, sur la suspension immédiate de toute coopération militaire policière avec des appareils répressifs dès lors qu'ils commettent de graves violations des droits de l'homme. Il demande également l'abandon de politiques héritées du passé, telles que le port de l'uniforme local par les coopérants militaires français et la remise à des militaires des pays hôtes ou l'acceptation par les militaires français de décorations honorifiques liées à leur coopération. Et aussi la réforme du système de coopération militaire et rendre disponibles les rapports. Parce que quand on interroge la question militaire au Parlement français, on voit qu'il y a une certaine opacité du gouvernement sur ces rapports qui ne sont pas rendus disponibles pour les institutions de recherche. Ceci dit, je rebondis donc à la question que vous avez posée en faisant le lien entre la coopération militaire et le marché économique. Le Togo n'est pas... le Togo, c'est un petit pays pauvre qui a d'autres priorités, par exemple, de nourrir, de vêtir, de protéger, d'éduquer sa population et sa jeunesse qui est laissée complètement marginalisée face à la... qui ne profite pas de la croissance économique. Et devant ce fait, le premier poste de dépense est militaire au Togo. Pour une population de 6 millions d'habitants, on voit que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, le poste de dépense qui est affecté à l'armement. Et c'est trop important pour ce pays de 6 millions d'habitants. Ceci dit, effectivement, M. Macron a évoqué que à Ouagadougou, un semblant de changement de paradigme en termes de relations avec les anciens pays colonisés. Je précise quand même que le Togo n'a pas été colonisé par la France, mais
sous tutelle.
Mais in fine, la dynamique est la même. Et effectivement, on voit ici qu'on a un semblant de changement de paradigme, mais les éléments vitaux de ce paradigme, le premier, justement, ça demeure la coopération militaire. Ensuite, il y a l'autre aspect, et qui est le franc CFA. Donc, il y a ces deux leviers qui restent immuables. Et tant qu'il n'y a pas de réforme profonde sur ces aspects, ben, le beau discours de dire que la France n'a plus de doctrine politique en Afrique et que ça devient quand même une très belle un catalogue d'intentions, dans la mesure où si ces deux éléments ne sont pas revus de front en comble pour l'adapter aux réalités de souveraineté de ces pays africains qui veut s'autogérer dans une certaine indépendance pour le bien de leur population et non au service d'un marché français en fonction de leur économie.
On va voir ce que pense également Kofi Nyadozon et de ce discours de Emmanuel Macron tout dernièrement à Ouaga. Hein. Vous l'avez suivi, Kofi Nyadozon. Hein, donc Emmanuel Macron veut également lutter aux côtés des pays ayant opté pour la démocratie. Mais vous l'avez suivi, hein, les manifestations se poursuivent. La mobilisation ne faiblit pas au Togo. Aujourd'hui même, la population est encore sortie, nombreux à l'appel de la coalition des 14 partis pour l'opposition. Vous avez suivi en début d'émission l'information que nous a livrée notre sœur Farida Namourema sur la manifestation qui a été dispersée des Togolais et le Ghanéen Bernard Mora qui sont arrêtés aujourd'hui à Accra au Ghana. Et là, comprenez-vous la position de la France qui veut soutenir quand même ces populations africaines ou togolais qui désirent obtenir la liberté, la démocratie dans leur pays, Kofi Nyadozon?
Alors, la position de l'État français, au fond, n'a rien de nouvelle ou de nouveau. Parce que, vous savez, puisqu'en 92, il y avait eu une suspension de la coopération militaire avec le Togo, et en 94, la France a repris de plus belle cette coopération-là. Et Michel Roussin, qui était alors ministre des Affaires étrangères, déclarait également ou se félicitait du renouvellement hein, du lien entre la France et le Togo. Et disait donc que Paris restait lié au grand principe de la démocratie. Et plus tard, ce monsieur a été élevé au rang de grand chevalier de l'ordre du Mont-Blanc. Pour vous dire tout simplement que la déclaration de M. Macron, oui, elle est bien belle, mais qu'en est-il des actes? Parce que c'est bien là le nœud. Il suffit pas de faire de belles déclarations.
Donc et pour vous,
dire qu'on ne peut.
Pour vous, c'est du semblant, quoi, oui. C'est ça.
Oui, jusqu'à preuve du contraire, ça reste juste de belles déclarations. C'est-à-dire que aujourd'hui, il ne faut pas occulter la réalité. Nous avons des jeunes, des mineurs qui sont morts depuis le 19 août dernier et plus par ailleurs. Donc, on ne va pas se satisfaire de simples discours pour nous dire que oui, parce que la France ou M. Macron a déclaré ceci, qu'il faut donc s'en satisfaire. Non, nous voulons des actes. Parce qu'aujourd'hui, le peuple togolais, quoi qu'il en soit, les manifestations s'accentuent certes, mais il ne faut pas oublier que les expéditions punitives, les militaires qui continuent de violer les droits humains, eh bien ça, ce sont des réalités qui demeurent. Donc il faudrait, à mon humble avis, que la tendance aille autrement, c'est-à-dire qu'on puisse joindre l'acte à la parole, de sorte à demander très clairement au gouvernement togolais, eh bien, de respecter en priorité les droits humains et de mettre, par exemple, les militaires en caserne, de sorte que les attentes légitimes des populations puissent être traduites en pratique. Donc, à mon humble avis, cette déclaration, elle est belle, mais nous voulons il faut des actes. Tant qu'il n'y a pas d'actes, eh bien, on ne fera que dresser un comparatif avec ce qui a été fait historiquement. Et historiquement, eh bien, la France, le gouvernement français n'a jamais été aux côtés des peuples africains et celui togolais en particulier.
Tout à fait. Nous marquons une cause et nous reviendrons tout de suite dans ce débat.
You have l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.
Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch radio. Denis Gon, Radio Avolété, la voix de la résistance du peuple togolais et FM Liberté et Radio et FM Liberté basée à Chicago. Et nous sommes dans ce débat, on l'avait dit, dans ce contexte de révolte populaire légitime au Togo. La France doit-elle suspendre sa coopération militaire et policière avec le Togo? Et nous en débattons avec deux membres de la diaspora togolaise, notamment Koffi Nianozo, il est juriste, il est membre du mouvement citoyen Nubweke Diaspora, également du groupe Finance l'Afrique. Et au Canada, nous avons Thé Nyamassa de Lossonirou, il est le président du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau. Justement, Thé Nyamassa de Lossonirou est face à cette situation, hein. Donc, il y a la révolte populaire est légitime au Togo, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde entier qui soutient ce peuple togolais là. C'est qu'en temps de dictature, ça suffit, disent, et justement, les panafricains, les togolais. Et là, et on parle également de cette coopération pour le ciel militaire de la France. Il y a l'association Survie en France qui dit que la France doit suspendre sa coopération policière et militaire avec le Togo. Alors là, dans cette situation, que doivent faire les Togolais de France qui sont des contribuables de ce pays pour amener les décideurs justement de la France à prendre leurs responsabilités dans le cas du Togo, effectivement, les Togolais d'origine gravitant autour de Macron remontent-ils et l'enlissement du cas à leur chef, Thé Nyamassa de Lossonirou?
Oui, je crois que c'est une question intéressante, la responsabilité des Togolais dans cette configuration. En fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que pour la France, c'est l'assistance militaire. Et c'est un marché d'abord économique, pour la France, parce que c'est les entreprises françaises, c'est l'État français qui fournit donc l'encadrement militaire et les munitions d'armement donc à l'armée togolaise. Donc c'est d'abord un marché et donc c'est lucratif, malgré que ce pays-là est pauvre et qui tire le diable par la queue. La deuxième chose, c'est un levier important de souveraineté. Parce que la personne qui vous arme, la personne qui vous donne le pouvoir, la puissance de feu, ben c'est cette personne-là a évidemment un pouvoir sur vous. Donc ça leur permet, en fonction de l'évolution de leur politique la diplomatique, d'orienter dans un sens ou dans un autre. Et vous allez voir que ça, dans certains pays, c'est pas encore arrivé dans le cas du Togo, mais dans certains pays, ben, les coups d'État se sont succédés à une vitesse éclair en fonction justement de l'évolution de la volonté de la France. Et donc, il y a ce levier-là. Et enfin, ça permet justement d'avoir un contrôle, en fait, tout à fait sur le pays. Dans le cas du Togo, nous avons vu que l'armée est restée absolument fidèle à sa logique depuis l'assassinat du premier président. Mais en France, d'abord, il y a, comme l'a souligné l'association de survie, il y a une certaine opacité. Et c'est pourquoi les Togolais de France doivent réclamer auprès de leurs élus, n'est-ce pas, que d'abord l'information soit disponible et qu'ils savent, qu'ils questionnent qu'est-ce qui se fait et qu'ils sachent qui, par exemple, les postes occupent les 14 officiers français au Togo et qui sont dans l'encadrement technique de l'armée togolaise. On n'a pas d'informations sur les postes, on n'a pas d'informations sur les noms, on ne sait pas ce qu'ils font, combien ils sont payés, etc. Donc, c'est des informations qu'ils peuvent réclamer, qui doivent être disponibles, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le fait que aujourd'hui, il y a une certaine privatisation, n'est-ce pas, de ce partenariat qui a été hérité du temps colonial, que les privés aujourd'hui, les entreprises françaises, pour leur marché, fournissent des armes et munitions à la police ou à l'armée togolaise. Il faut quand même que ces informations soient disponibles. Par exemple, si vous allez sur le site d'une de ces associations, on a découvert, Amnesty International a relevé une douille à Gouin, et après à la lutte de cette douille, il s'est avéré que c'est une société française qui s'appelle Nobel Sport, et qui est donc a fourni ces éléments-là. Et quand vous allez dans leur site, ils ne disent rien, ils disent tout simplement que sa division sécuritaire équipe les forces de police et de gendarmerie et de l'armée de France et de l'armée en France et à l'étranger. Tous les produits de Nobel Sport Sécurité ont été développés en partenariat avec les forces de l'ordre, tant françaises qu'étrangères. C'est tout. Pas plus d'autres informations. On vous opposera le secret de défense. Donc, ils peuvent également faire pression sur ces entreprises-là pour que, dans le cas de violation systématique des droits de l'homme, dans le cas où le peuple, l'armée où le tue sa population, il faut quand même agir. Nous avons en mémoire donc la déclaration du ministre Alioumaï qui proposait lors du soulèvement de Tunisie le savoir-faire français répressif pour maintenir le dictateur tunisien. Elle a perdu son poste, mais la pratique est restée, que ce soit sous Sarkozy ou Hollande. Et donc, on voit également que Macron, en privilégiant donc l'agenda économique, et ben ne fait que renforcer cette dynamique-là. Nous sommes très inquiets. Donc, les Togolais de France doivent faire pression sur leur gouvernement pour que, un, l'information soit disponible, deux, pour que le gouvernement ne fournisse pas du matériel en cas de répression systématique des droits de l'homme.
D'accord.
Et enfin, la lutte ne doit plus être concentrée seulement au niveau local, mais ça doit être envoyé au niveau de l'Europe. Hein, les Togolais d'Europe doivent faire pression sur l'Union européenne pour que, en ce qui concerne la coopération militaire, que ça ne soit pas du domaine réservé.
En gros, je ne vous coupe pas, les Togolais de la France et surtout de l'Europe doivent comprendre, doivent convaincre l'Union européenne pourquoi la France ne doit-elle pas fournir encore des armes au Togo, justement. C'est ce que vous voulez dire, Tchignamassé-Lossonelou?
Oui.
D'accord.
Exactement. Que ne soit pas seulement dit de façon que ce dossier de coopération militaire soit européanisé, c'est-à-dire que les Européens, les autres pays européens ont à dire sur ce dossier, que ce ne soit pas seulement du domaine réservé français, et qui se limite justement à des relations incestueuses avec les dictateurs africains.
On l'avait dit en début de ce débat qu'en même temps que la France demande au calme, demande aux Togolais de dialoguer, alors la France continue d'armer, la police et l'armée togolaise est connue pour tourner, le mot est bien dit, tourner leurs armes principalement contre les populations. Là, c'est la raison pour laquelle certains Africains, certains Togolais disent que la France ou même l'association survie en France dit que la France doit suspendre sa coopération militaire et policière avec le Togo. Eh bien, Kofi Nianozon, face à cette situation, que doivent faire les Togolais de France? On rappelle à nos auditeurs du test que vous-même, vous êtes également en France. Alors, que faites-vous concrètement, vous les Togolais de France, vous connaissez très bien ce qui se passe au Togo et comme ailleurs, pour convaincre la France de ne pas livrer des armes au pouvoir togolais? Kofi Nianozon.
Alors, notre démarche, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut déjà travailler via des conférences, des conférences organisées, comme nous en avions eu à Paris et puis à Nantes, de sorte à pouvoir mobiliser également la population française qui, visiblement, est totalement déconnectée de ce qui se passe ou du rôle que jouent ou qu'ont joué les différents gouvernements français en Afrique, aux côtés donc des dictatures. Et donc, la seconde démarche va être d'aller, du coup, vers les élus de façon solidaire, puisque si aujourd'hui survit Amnesty, toutes les organisations que nous connaissons, on arrive à expliquer dans une démarche pédagogique, donc, au peuple français également de nous accompagner, nous pourrions aller faire pression, donc, sur les élus, de sorte à avoir des outils juridiques qui vont venir donc conditionner donc cette coopération militaire là. Je pense par exemple à la présence de ce qu'on va appeler une clause de conditionnalité démocratique, donc axée sur le modèle des programmes d'aide au développement. Ça veut dire que lorsque on remarque dans le pays que l'outil militaire ou la coopération est utilisée pour réprimer, donc pour faire taire la population, eh bien on la suspend. Et donc on peut donc faire pression pour que les députés aillent en ce sens, aient un débat, une discussion en ce sens pour arrimer une clause ou insérer une clause de conditionnalité démocratique dans ces accords d'assistance militaire-là. On peut également faire en sorte que les accords de défense ou les accords d'assistance militaire, soient revus ou relus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces accords, il y a des éléments qui permettent à la France de pouvoir, c'est ce qu'on appelle une clause, des clauses secrètes, donc ce sont des éléments qui permettent à la France d'intervenir en interne pour maintenir le dictateur ou maintenir ce qu'ils appellent l'ordre public.
Tout à fait.
Ou l'ordre interne. Et donc, il faudrait aller dans ce sens également pour que cet élément-là soit enlevé, soit enlevé de l'accord donc de défense, de sorte à permettre qu'il y ait une certaine transparence. Ce n'est qu'à partir de là qu'on va pouvoir commencer par asseoir une certaine transparence dans la coopération militaire qui est menée par la France ou le gouvernement français en Afrique. D'accord. Donc, première chose, l'insertion d'une clause de conditionnalité démocratique. Si l'État ne réunit pas ou n'assoit pas les règles démocratique ou n'est pas attaché aux valeurs fondamentales que reconnaît ou qu'incarne la France, on suspend la coopération. Et seconde chose, il faudrait dépouiller de ces accords-là tous ces éléments qui permettent au fond le maintien de ces coopérants militaires qui ne visent qu'à entretenir, comme le disait M. Thier, une relation incestueuse donc avec les États africains. D'accord. Où les longs règnes perdurent.
D'accord. En tout cas, Kofi Nianozon, bravo pour tous ces efforts que vous menez pour informer l'élite politique française sur cette problématique très critique au Togo. Alors, est-ce que, sincèrement, vous pensez vraiment que les Togolais d'origine gravitant autour de Macron remontent-ils l'enlisement du cas togolais à leur chef, Kofi Nianozon?
Absolument. Ils font ce qu'ils peuvent. Il est vrai qu'on doit intensifier la démarche, Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous menons un combat sur deux fronts. C'est-à-dire il y a un combat qui se mène sur le terrain et il y a un combat également qui se mène dans la diaspora. Donc, par rapport au gouvernement Macron, il faut observer que M. Macron tend à se réfugier derrière la souveraineté de l'État togolais. Et donc, il se dit qu'il ne peut pas dire à un de ses homologues, eh bien, cher monsieur, faites comme ceci, faites comme cela.
Il ne veut pas s'ingérer, il veut pas s'ingérer dans l'affaire d'un État souverain.
Exactement. Exactement.
Mais Kofi Nanozon, sans langue de bois, quand la France dit, ou bien quand Macron dit qu'il ne veut pas s'ingérer dans l'affaire d'un État souverain, mais au même moment, dans ce pays, on massacre cette population-là. Mais il y a quand même raison d'intervenir. La France, quand même, c'est quand même une grande puissance mondiale.
Exactement, c'est là où j'allais en venir. Quand je disais que on se réfugie derrière la souveraineté, mais à l'inverse ou de l'autre côté du tableau, eh bien, par le biais de la coopération militaire, on maintient donc ces gouvernements-là d'une façon ou d'une autre par la fourniture de matériel militaire. Donc, nous avons vu, par exemple, que le Quai d'Orsay a fait une déclaration. Lorsque les miliciens sont sortis, eh bien, il faudrait intensifier nos démarches ici en France pour que le gouvernement ou le Quai d'Orsay puisse sortir donc d'un silence, soit complice ou coupable, c'est selon, pour que nous ayons des déclarations fermes afin que le gouvernement togolais puisse comprendre que le Togo en réalité est une anomalie, au sein de la sous-région. Et nous pourrions aller plus loin, parce qu'il ne revient pas fondamentalement aux Français. Et là, je rejoins également M. Thier, il faudrait que nos compatriotes qui vivent en Belgique, en Allemagne, qui déjà se mobilisent, eh bien, qu'eux aussi également intensifient leur pression, de sorte qu'au niveau européen, le dossier togolais puisse devenir un élément sur lequel tous les pays puissent plancher, de sorte à ce que, naturellement, la répression cesse et que la voix du peuple s'exprime.
Tout à fait. Eh bien, Thier Nyamasoli Losonilou, je le disais, vous nous accompagnez en ligne en direct depuis Canada. Et là, la France doit-elle suspendre sa coopération policière et militaire avec le Togo, avec nos deux invités? Pour vous, c'est tout à fait normal. La France doit suspendre cette coopération, là, tout comme l'a dit également l'association Survie en France. Et là, il y a trop de répression au Togo, trop de morts. Et là, on se pose la question, Thier Nyamasoli Losonilou, Macron, à l'instar de François Hollande, attendent-ils davantage de morts au Togo et pour, dans une situation de déconfiture totale, pour exfiltrer à la camporée Fona Singbé? C'est la question qu'on se pose également. Thier Nyamasoli Losonilou.
Oui, je pense que la question est absolument fondamentale, c'est-à-dire aujourd'hui le peuple togolais s'est levé comme un seul homme et veut reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire reprendre en main sa gestion et décider quelles sont les personnes la personne qui doit présider au destiné de l'État. Cette souveraineté appartient au peuple togolais et seul le peuple togolais peut l'exercer comme il le veut. Et par conséquent, dans le cas de figure que nous voyons, je crois qu'il y a deux éléments essentiels qu'il faut souligner. Le premier, c'est que au-delà donc des éléments que vient d'évoquer Kofi Nyanzozo, je crois qu'il est important d'aller sur le plan philosophique. Puisque M. Macron voudrait réévaluer, dit que la France n'a plus de doctrine politique en Afrique et qu'ils veulent juste avoir une politique africaine, il va falloir donc réévaluer ce qu'on appelle les legs coloniaux de cette politique africaine que, comme je viens de l'indiquer, le franc CFA et la coopération militaire. Sur le plan de la coopération militaire, il faut évaluer non seulement demander à la France de ne plus fournir ce matériel quand il y a violation systématique et flagrante des droits de l'homme, mais il faut, au-delà de ça, il faudrait que les Africains de France, d'Europe, et réfléchissent et se posent la question sur l'utilité, n'est-ce pas, du côté français, oui, c'est un marché, c'est économique, c'est lucratif, mais du côté africain, sur l'utilité même de l'assistance militaire des pays africains. Dans la mesure où, quand nous voyons depuis les 60 dernières années, les Africains n'ont pas eu à faire une guerre. Il n'y a pas une menace extérieure qui a menacé, en réalité, la souveraineté des États africains. Les guerres qui se sont passées, c'est des guerres, je dirais, les guerres fratricides. C'est à l'intérieur de ces pays-là où c'est des guerres entre les composants de ce même pays. Donc, les guerres entre États sont très limitées. Et donc, en réalité, les Africains doivent savoir aujourd'hui où est leur priorité. On a vu que des États se sont énormément armés. On prend le cas de la Libye, qui est l'un des États les plus armés d'Afrique. Mais on a vu comment ça a fini. Donc, tout cet armement-là, non seulement devient obsolète quand il faut vraiment l'utiliser, et c'est juste pour protéger ces dictateurs. Et donc, quand le moment est venu de les tuer ou de les éliminer, on les élimine. Donc, en fin de compte, ça ne protège pas en réalité les États africains. Ça protège le dictateur ou le régime, mais in fine, ça ne sert qu'à faire de la répression et à gaspiller de l'argent. Donc, en réalité, avons-nous besoin, si on prend tous les pays francophones ou tous les pays africains, est-ce que nous avons besoin réellement de cet assistant militaire? C'est vrai, la souveraineté sans la force n'est rien, mais est-ce que aujourd'hui les États africains peuvent se poser cette problématique pour voir si tout l'argent qu'on met dans le financement militaire, est-ce que nous avons réellement besoin? Et si nous pouvons orienter tous ces investissements vers les besoins vitaux de la population, qui est donc l'éducation, la santé et la protection en termes. Donc, il y a ce questionnement qu'il faut, dans la mesure où nos armées ne sont pas... À chaque fois que nous avons des défis, regarde le cas du Mali, quand il s'est agi pour l'armée malienne de défendre le territoire malien, ben c'est la France qui est revenue encore pour et aujourd'hui, la question se pose sur l'efficacité de tous ces investissements. L'autre sujet qu'il faut également revoir, c'est aujourd'hui, on voit que le retour de la France dans le Sahel, ça pose également le problème de souveraineté. Donc, non seulement on nous protège, mais quand le moment est venu de nous protéger, c'est la puissance colonisatrice qui revient encore avec la France et qui s'installe encore pour des générations. Alors, donc, c'est des instruments de géopolitique, de redéploiement de la France aujourd'hui dans le Sahel et qui a d'autres conséquences qui nous échappent. Donc, la question philosophique est de savoir si nous avons réellement besoin de tous ces investissements en matière d'armement pour les pays africains, en tout cas dans les cas qu'ils le sont aujourd'hui.
D'accord. Merci beaucoup Té Nyamasali, Lawson Ilou depuis le Canada, Kofi Nyasozon. On va essayer de retracer un petit peu la crise sociopolitique pour nos amis panafricains ou même pour certains Togolais qui ne sont pas tellement bien informé sur le cas togolais. Et là, Kofi Nyasozon, vous le savez très bien comme moi, qu'au Togo, en 2005, l'ONU a dénombré 500 morts. D'autres organisations parlent de 1000 morts. Et là, depuis plus de 3 mois, bientôt 4 mois, la mobilisation ne faiblit pas. On dénombre encore 16 morts, plus d'une centaine de blessés. On se pose la question, Emmanuel Macron, à l'instar de la France, à l'instar de François Hollande, j'allais dire, attendent-ils davantage de morts au Togo pour une situation de déconfiture totale pour exfiltrer à la comporée Faure Gnassingbé? Que répondez-vous à cette question très pertinente, Kofi Nyasozon?
Alors, par rapport à cette question, est-ce que la France attend que le nombre de morts atteigne les 1000 ou les 2000 ou les 3000 comme en Côte d'Ivoire avant de pouvoir se mobiliser,
réagir.
Eh bien, c'est à nous, sur cette question, il revient aux Togolais de faire en sorte que la France, si elle doit agir, puisqu'au fond c'est elle qui a le levier du gouvernement togolais, si la France doit agir, qu'elle le fasse le plus tôt. Et tout dépendra de notre mobilisation. C'est-à-dire que si on croise les bras et on attend que la France agisse, naturellement là, on va se retrouver dans cette configuration où le nombre de morts va amplifier et peut-être même que la France n'agira pas ou recommandera un fumeux dialogue comme on tend en excipé là récemment. Donc ça veut dire très concrètement que nous ne devons pas attendre que la France bouge, parce qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter. Eh bien, cette réalité, c'est ce qu'on appelle l'appropriation africaine. C'est-à-dire que la France et certains pays européens ont tendance à dire qu'il revient aux Africains de régler leurs problèmes. Donc ça veut dire que la France se réfugie derrière les institutions régionales, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, pour dire que, eh bien, ils peuvent, ou ces institutions-là, pardon, peuvent résoudre la question. Du coup, elle n'intervient pas, elle reste derrière et envoie ces entités régionales-là. Ça veut dire que si ceux ou celles des personnes qui dirigent ces institutions régionales sont un tant soit peu, donc en faveur du gouvernement autocratique, les populations, eh bien, ne feront qu'être massacrées, rien ne se fera. Donc, en clair, c'est à nous, comme je le disais, de nous mobiliser, et dans la diaspora, et sur le terrain, de sorte à ce que les projecteurs restent figés sur le Togo et que la lumière s'amplifie, afin que les positions au-delà de la France, les USA, l'Allemagne, la Belgique par exemple, puissent bouger. Si l'Union européenne aujourd'hui fait un pas, il est clair que la France en fera également. Nous l'avons vu il y a quelques jours, quand les USA ont parlé des milices, quelques jours ou quelques heures après, et bien la France également en a fait cas. Ça veut dire que si nous intensifions notre mobilisation, la France n'attendra pas d'exfiltrer qui que ce soit, et bien elle prendra d'ailleurs le premier pas pour demander que celui donc, qui fait souffrir ou qui symbolise les 50 ans de souffrance du peuple, et bien que ce dernier se démette de ses fonctions. Et donc on fera également là l'économie des morts, de sorte à éviter encore plus de martyrs que nous n'en avons déjà eu.
Tout à fait. Nous marquons une pause et on revient pour conclure ce débat.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeant africain de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons.
Message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde.
Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalka.ch Radio. À vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais, FM Liberté Radio d'Enigma. Le débat, dans ce contexte de révolte populaire légitime au Togo, la France doit-elle suspendre sa coopération militaire et policière avec le Togo? Nous en débattons avec deux membres de la diaspora togolaise, Kofi Nyanzonzon, il est juriste, membre du mouvement, citoyen Nubweke, diaspora, également du mouvement et groupe Finance l'Afrique. Tienyamassadi Losonolu, en ligne depuis Canada, il est président du MTN mouvement pour un Togo nouveau. Eh bien, Tché Nyamasadi Losonilou, une question reste un mystère total pour nombre de Togolais et panafricains. Il y a des dinosaures, des faucons sont tombés en Afrique de l'Ouest. Hein. Il y a Blaise Compaoré, il y a Djamé, Abdoulaye Wade, pour ne citer que ceux-là. Alors, tous les pays ouest-africains ont connu l'alternance, sauf le Togo, qui, au demeurant, préside également la CEDEAO. Alors, la question se pose. Pourquoi donc? Pourquoi Fonia Simbé est-il toujours au pouvoir? Quelles sont les forces qui le maintiennent là?
Je crois que d'abord, je dois préciser que je suis aussi le porte-parole de la diaspora togolaise au Canada et le vice-président du Diastocad, la diaspora togolaise au Canada pour la démocratie. Et dans ce sens, nous avons, nous soutenons depuis le début la volonté du peuple togolais, le combat du peuple togolais pour le départ immédiat de Fonia Simbé du pouvoir. Et il faut quand même, il me semble, qu'il faut souligner deux éléments essentiels. Le premier, c'est il faudrait pas que dans une question qui a été posée au président Macron à l'université de Ouagadougou, il répondait aux étudiants que qu'ils ont un sous-jacent colonial, c'est-à-dire qu'il voit en lui quelqu'un qui doit résoudre les problèmes africains qui n'est pas le président du Burkina. Et je crois que dans ce sens-là, nous devons rappeler au président français que ce qui a lieu de faire, c'est d'abord de décoloniser l'imaginaire français aussi. Dans les rapports aux pays africains, il y a un processus de décolonisation de l'imaginaire français qu'il faut amorcé. Et aux Africains aussi, nous devons décoloniser notre imaginaire et ne pas attendre de la puissance, l'ancienne puissance coloniale, un certain nombre de choses. Donc, attendre de Macron qu'il vienne exfiltrer Fonia Simbé serait un peu de l'heure. Nous devons, le peuple togolais doit pouvoir exprimer, exercer sa souveraineté en toute liberté. On a vu dans le cas du Burkina. Et donc, face à la volonté du peuple togolais d'affirmer sa souveraineté, eh bien, la France et ses soutiens tentaculaires au Togo prendraient les dispositions qui s'imposent. Mais n'attendons pas comme un Père Noël, ils viendront donc nous débarrasser de Fonia Simbé. Dans la mesure où, quand vous voyez la situation du Togo, l'armée haute est au centre d'un dispositif mafieux, parce que le Togo, la façon dont il est géré est un état mafieux, où le port autonome de l'OME joue un rôle central dans ce dispositif de France-Afrique. Et donc, il y a beaucoup d'enrichissements qui se font, il y a beaucoup d'argent en jeu, le pétrole, par exemple, dans le pétrole offshore togolais qui est exploité, personne n'en sait rien, et c'est les généraux qui sont sur ce projet très lucratif. Vous allez voir même que dans ce dispositif-là, c'est souvent les généraux qui sont nommés au niveau du port autonome de Lomé. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, et beaucoup d'argent qui sont brassés, et beaucoup de trafic, et qui font que il est très difficile, et donc de couper le bras qui vous sucre. C'est au peuple togolais, au peuple africain, de s'organiser, de se mobiliser, de faire pression pour en sorte que tous ces intérêts mafieux qu'on puisse mettre fin à tous ces intérêts mafieux. Donc, à s'attendre à ce que Macron vienne exister Fonia Simbé, le problème ne doit pas se poser en ces termes, ça doit plutôt se poser en termes de comment organisons-nous, n'est-ce pas, pour mettre fin à ce régime-là. Et la réaction de la France sera étudiée en temps et lieu comme stratégie ou contre-stratégie sur la situation du Togo. Voilà ce que nous pensons dans ce sens-là. Et nous estimons aussi que la rue, la pression de la rue doit s'intensifier.
D'accord.
Et que les marches doivent s'intensifier au Togo et dans la diaspora. Et dans ce sens-là, eh bien, le Fonia Simbé n'a d'autres solution de pouvoir. Maintenant, si son protecteur vient l'exfiltrer, ça fait leur problème. De toute façon, on ne peut pas seulement exfiltrer Fonatoumbe, on veut que tout le dispositif mis en place, tout le dispositif mafieux, qu'on puisse le déraciner et que le Togo retrouve sa liberté. D'accord. Et dans cette question-là, il va falloir poser la question de la dette, qui est une conséquence de ça. Les Togolais ne sont pas responsables de 50 ans de système mafieux qui a exploité, détruit ce pays-là. Et donc la dette qu'on va nous laisser, cette dette-là, le moment viendra où il faut réfléchir donc sur la responsabilité de la dette et qui l'assume et qui ne va pas une corvée sur les épaules du peuple togolais abdicable.
D'accord. En tout cas, comme vous venez de le dire, hein, les manifestations doivent s'intensifier. D'ailleurs, cette semaine, vous l'avez vu, hein, mercredi, jeudi, vendredi, il y a une pause, mais aujourd'hui, là, vous avez vu les images, hein, ils sont sortis nombreux, hein, une marée humaine au Togo. Le peuple togolais est déterminé, c'est pourquoi on a posé la question, jusqu'à quand? Combien de fois le peuple togolais peut être mobilisé? Combien de morts, hein, attend encore la France pour agir? Mais, comme l'a dit Kofi Nadjozon, c'est le peuple togolais qui tu vas prendre ses responsabilités en main. Kofi Nadjozon, on a vu, hein, des dinosaures sont passés, hein, sont tombés en Afrique de l'Ouest, Plaise Campori, Yadjamé, Aboudjelaï Ouad. Et là, on se pose la question, pourquoi Fonia Sibi, le Togo est le seul pays dans la sous-région à ne pas connaître l'alternance? On se pose la question, quelles sont les forces qui le maintiennent là, Kofi Nadjozon?
Eh bien, il y a des forces occultes. Et ces forces occultes-là, sont ceux qui ont des intérêts immédiats, notamment nous savons que le Togo, c'est une plaque tournante, comme je le disais en début de propos. Donc à partir de là, une plaque tournante où toutes les organisations criminelles mènent leurs activités en toute impunité. Donc à partir de cet instant, il est un peu plus difficile que ces organisations ou les chefs de ces organisations voit aujourd'hui ce système balayé et que le Togo renoue ou noue plutôt avec l'alternance démocratique. C'est pour cela que ça va être compliqué parce que c'est un peu comme la base arrière de toutes ces entités là qui sont experts en toutes choses, trafic d'armes, de drogue et de tout ce qu'on peut imaginer. Certains même démocrates en France mènent une politique parallèle dans ce pays, de sorte à pouvoir voir leur compte renfloué. Donc le Togo, c'est un peu comme une nébuleuse. Et donc, ça va être difficile, et c'est pour cela que le gouvernement togolais, qui ne reculera d'ailleurs devant rien, n'est pas du tout soluble dans la démocratie. Donc, à partir de ça, de cet élément-là, encore une fois, il nous revient à nous, de nous mobiliser, de nous galvaniser, de comprendre que notre détermination ne doit pas être émoussée parce que nous avons là à enlever la racine de tout le mal dont souffre l'Afrique subsaharienne.
Tout à fait, Kofi Nadjozon, on va conclure cette émission avec vous. Dans ce contexte de révolte populaire légitime au Togo, la France doit-elle suspendre sa coopération policière et militaire avec le Togo? Alors là, hein, on a souvent parlé de l'armée togolaise qui contrôle quand même ce pouvoir-là au Togo, sans langue de bois. Alors, pour conclure ce débat, peut-on raisonnablement espérer une prise de conscience, le cas échéant, un sursaut patriotique au sein des forces de l'ordre togolaises?
Ben, c'est tout ce qu'on le souhaite, on le souhaite vivement, dans la mesure où l'armée togolaise fait partie justement de la composante. Elle est nourrie, elle est habillée, elle est armée justement par les ressources du Togo, et donc par le travail, la sueur des Togolais. Et donc, devant cette situation-là, elle ne peut pas se permettre justement de ad vitam, de maintenir un régime répressif, pour toujours. Il va falloir quand même que des consciences au niveau de cette armée puissent s'ouvrir à la possibilité d'alternance pacifique et démocratique au Togo. On l'a vu au Zimbabwe, on l'a vu dans d'autres pays. Alors, maintenant, la configuration de l'armée togolaise pose un problème. C'est une configuration assez concentrique il fait encore que l'essentiel du pouvoir et de la puissance de feu est dans un cercle assez restreint, et ce cercle-là, justement, où c'est eux qui maintiennent le levier du pouvoir. Mais dans toutes circonstances, il n'y a pas de problème sans solution. Donc, il y a des failles quand même au niveau de cette armée. Et c'est vrai qu'il y a un système répressif, très répressif au sein de l'armée, où certains militaires qu'on soupçonne de soutenir le peuple sont exécutés systématiquement et qui disparaissent. On leur colle des missions, puis on ne les voit plus. Donc, il y a ce climat de terreur au sein même de l'armée togolaise, qui fait que c'est seulement les zélés et les zélotes qui ont le prochain chapitre. Ceci dit, nous pensons que la lutte des peuples est invincible et que bien que l'armée détienne des armes, ces armes-là, in fine, ne peuvent pas être utilisées pour éliminer l'ensemble du peuple togolais. C'est impossible. Et donc, ce qui hasarderait à le faire, est aussi pour des secours de grand danger, dans la mesure où ils ne seront pas toujours militaires, ils n'auront pas toujours le fusil du bon côté. Et donc, alors le peuple togolais a la sa victoire, et ça va arriver, ce n'est qu'une question de temps, que l'armée aide à diminuer ou du moins à éviter des morts d'ordre inutiles, ce serait appréciable. Effectivement, ils n'ont pas ce mal d'évidence qu'ils n'ont pas d'autre choix, n'est-ce pas, que d'appuyer le peuple togolais dans sa lutte de libération. Surtout que tous les grands changements qui ont intervenu au Togo, par exemple après la conférence nationale souveraine, mais l'armée togolaise en a profité énormément. Et donc, ils sont en phase de profiter plutôt du changement démocratique au Togo que tout autre. Donc, le fait que l'opposition ne bouge pas, ça peut être aussi l'iceberg, c'est-à-dire la partie qui cache cette volonté des militaires togolais de voir le changement parce que c'est dans leur profit. Maintenant que Fonia Sinbé et son clan maintiennent l'armée dans un état de terreur, mais cette question ne va pas être résolue très rapidement dans les jours, dans les semaines à venir.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Té Nyamasadé Losonelou. Vous allez quand même rester avec nous. On va continuer ce débat sur cette nouvelle coalition qui a vu le jour à Paris samedi dernier. Et avant de libérer Kofi Nyazozon, votre mot, ou bien votre conclusion sur ce thème, dans ce contexte de révolte populaire légitime au Togo, la France doit-elle suspendre sa coopération policière et militaire avec le Togo? Kofi Nyazozon, peut-on raisonnement espérer une prise de conscience le cas échéant? Un sursaut patriotique au sein des forces armées et togolaises. Kofi Nyazozon, que direz-vous pour conclure ce débat?
Oui, moi je pense qu'on peut l'espérer, puisque depuis la dernière manifestation, c'est la garde présidentielle qui est déployée. Donc il faut commencer par s'interroger sur les raisons qui ont poussé à la sortie de la garde présidentielle et à l'empêchement des manifestants de rentrer chez eux. Donc ça veut dire que face à la mobilisation grandissante, eh bien, le système fait plus que trembler. Donc, j'invite nos compatriotes, et dans la diaspora, et sur le terrain, à sortir le plus possible, parce qu'il ne faut pas attendre que le mal arrive dans nos maisons avant que nous puissions prendre le pouls de la situation. Voilà pourquoi il est essentiel que nous ne devons pas faiblir, parce que pour une fois, ou pour une première fois, nous avons une mobilisation qui est maintenu dans la durée, tant dans la diaspora que sur le terrain. Et donc, nous n'avons pas le droit de reculer, autrement, nous sommes morts. Donc, il va falloir que nous restions debout et que nous avancions contre vents et marées, afin que les revendications légitimes de ce peuple-là, de ce peuple togolais, soient entendues et que, pour une fois au Togo, nous puissions nouer ou sortir de cette anomalie sous-régionale que nous constituons.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Kofi Nyazozon, pour cette conclusion très pertinente. Et bien que ceux qui ont des oreilles entendent, Kofi Nyazozon est juriste et membre du mouvement citoyen Nubweki. Il est également membre du groupe Finance l'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la France, justement à Poitiers. Kofi Nyazozon, à très bientôt. La mobilisation continue. Novi Avoletelo, à très bientôt. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
La Constitution de 1992 constitution de retour. C'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour.
Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi le dia et l'ennibé t'offre va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le dia et l'ennibé à me bonne va.
Le temps du changement est arrivé. Il est temps, le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. Il est temps, c'est la voix du peuple qui parle.
Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le bien et yenibé à mes bonnes.
Le veut plus de toi. Où est le problème? Va dans la paix. Ne cherche pas de problème. Au dollar c'est toi bébé. Et toi et les biens. Et toi les biens trop trop. Au dollar c'est toi bébé.
Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos.
Le peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Mon peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Va dans la paix. Ne cherche pas problème. Oh, va dans la paix.
Prends ton mandat. Yeah. Écoute la voix du peuple. Pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi le dia. Et yenibé, notre neva. Écoute la voix du peuple. Pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le dia. Et yenibé, amen pour neva.
Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3.
Ouais! Nous demandons le retour de la constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. Yama!
Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.
Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalka.ca, c'est Radio Partenaire, Radio à vous l'été, FM Liberté Radio, Denis Bon. Bien à Paris, samedi dernier, une coalition des mouvements de la diaspora togolaise est née sous la houlette du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Mais d'ores et déjà, des polémiques se font autour sur la préparation de ce grand rassemblement de la diaspora togolaise. Quels sont réellement les objectifs de cette coalition et pourquoi certains mouvements de la diaspora ne sont pas invités ou non à participer à la création de cette coalition? Des éléments de réponse avec deux responsables des mouvements de la diaspora togolaise participant à la création de la coalition de la diaspora togolaise.
Africa,
Eh bien, justement, notre compatriote Crépy Haïté du CMDT, Conseil mondial de la diaspora, nous a rejoint dans cette émission. Crépy Haïté, bonsoir.
Bonsoir, Amos. Et merci de me recevoir ce jour pour échanger, expliquer aux uns aux autres ce que nous faisons, tant au CMDT qu'au niveau de la coalition pour l'alternance et la démocratie au Togo.
Merci beaucoup, Crépy Haïté. Et je le disais tout à l'heure que cette coalition a été mise en place samedi dernier sous déjà fond polémique. Et là, dans quelles conditions la rencontre de Paris fut-elle convoquée? Qui était à l'initiative? Sur quelle base les participants ont-ils été choisis? Crépy Haïté, là, il y a trois questions ensemble, Crépy Haïté.
Oui, trois questions méritent trois réponses. La première, et tu m'as présenté comme membre du Conseil mondial de la diaspora togolaise, et ce Conseil mondial de la diaspora togolaise, dont je suis membre depuis plusieurs années, a toujours défendu ce nombre de principes, je m'empresse de rappeler, parce que tu comprendras que tout ceci a du lien avec ce qui se passe. Le CMDT a toujours œuvré pour l'état de droit, l'intérêt général et un développement harmonieux du Togo. Ce faisant, nous avons défendu depuis toujours des principes. Et ces principes-là nous ressemblent et nous rassemblent. Ça, c'est un premier point. Et le CMDT s'est donné comme vocation de rassembler tous les Togolais de par le monde pour pouvoir œuvrer autour de ces principes. Tu comprendras que dans notre approche et dans notre démarche, nous n'avons jamais cherché à pouvoir prendre le pouvoir au Togo et exercer quelques mandats politiques. Nous défendons des principes qui nous semblent être déterminants pour l'avenir du Togo. Donc, en tant que mouvement de la société civile togolaise, nous avons œuvré sans cesse autour de ces principes. Premier point. Deuxième point, le CMDT a continué depuis toujours, en ayant parcouru le monde entier, à mobiliser toutes les organisations de la diaspora togolaise, quelles qu'elles soient. Et il se fait que, eh bien, des approches de nos amis de l'Amérique du Nord, eh bien, ont abouti dans un contexte que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est celui du Togo. Et le fondamental de et le fondement de cette réunion de Paris est né de contacts pris depuis fort longtemps avec nos amis, et il se fait que la conjoncture a pressé le mouvement. Et cette conjoncture, chacun le sait aujourd'hui, est une conjoncture pressante pour que le Togo retrouve le chemin de la démocratie, que le Togo retrouve l'alternance, qui sont des conditions sine qua non pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Troisième élément, au congrès du CMDT l'année dernière, il y a presque un an, nous avons travaillé, et tu y étais, sur une notion qui nous est très importante, l'unité et la diversité de la diaspora togolaise. Cette unité de la diaspora togolaise nous semble être aujourd'hui la voie à suivre pour tout ce que nous faisons. Pour nous, elle est caractérisée par un certain nombre d'éléments très importants. Au-delà du terreau géographique dont nous sommes originaires, nous pensons que les Togolais doivent œuvrer pour l'unité de ce pays, doivent lutter pour l'unité de nos actions, doivent agir sans cesse pour qu'un certain nombre de fondamentaux, qui sont la démocratie, de par le monde aujourd'hui, plus personne ne discute l'élection au suffrage universel des citoyens, des dirigeants. Dans le monde entier, plus personne aujourd'hui ne discute l'alternance. Dans le monde entier, plus personne ne discute l'intérêt général. Dans le monde entier, plus personne ne discute l'état de droit. Pourquoi le Togo devra faire exception de tout ça? Et donc, cette unité que nous avons appelée à notre dernier congrès est en train de se mettre en place et notre coordonnateur, Raymond Ayivi, n'a eu qu'à utiliser la feuille de route qui lui a été assignée, rassembler les Togolais dans l'unité en tenant compte de la diversité. Toutes les organisations qui sont venues la fois dernière et qui ont participé activement à notre réunion commune, eh bien, on le laisse avec leur organisation. On ne demande pas une fusion, on leur demande d'œuvrer dans un sens et nous avons fixé les règles de l'unité qui sont aujourd'hui très claires pour nous. Ces règles de l'unité, c'est les objectifs qu'on s'est donnés, à savoir que travailler sur la synergie avec les organisations de la société civile, défendre les intérêts de la coalition, de ses membres, porter les propositions, répondre aux sollicitations et puis mobiliser le Togo et les amis du Togo, travailler sur les objectifs communs et œuvrer pour l'alternance et la démocratie au Togo. Oui, la mise en place de tout ceci s'est faite très très rapidement.
D'accord.
Et tout le monde n'a pas pu être mis au courant.
C'est la question que je voudrais vous relancer sur cette question justement. Ben, rassembler les Togolais autour d'un objectif commun à la tendance démocratique au Togo, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Mais justement, Crépy a été. Pourquoi cela s'est fait précipitamment et sur quelle base les participants ont été choisis? Alors, une partie de la diaspora crie déjà à la traîtrise. Que répondez-vous à la diaspora qui est confuse, hein? Nous-mêmes, au niveau de Venezuela Afrique, bien que nous sommes informés en tant que médias, en tant que associations ou mouvements, mais il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas informées. Quelle était la raison, Clépiaïté?
Non, il me semble que il faut avoir en tête deux éléments très, très importants. Le premier élément, tous ceux qui ont été informés en bonne et due forme et ont suivi notre action n'ont pas pu venir pour différentes raisons. Certains ont pu envoyer des personnes ont été mobilisées, n'ont pas pu être disponibles ce jour. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, toutes les associations n'ont pas eu l'information et je pense que ce sont des personnes qui n'ont plus suivi le travail du CMDT et pour la plupart. Mais je pense que il ne sert à rien au moment donné de dire que ceux qui n'ont pas eu l'information, c'est de leur faute. Nous, au CMDT, nous sommes toujours allés au-devant des Togolais. Et si les uns et les autres ont eu ce sentiment de n'avoir pas été associés, je leur prie de nous en excuser, parce que ça n'est pas notre démarche. Nous sommes allés en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada pour rencontrer le plus grand nombre. Et ça n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter ce chemin-là.
D'accord.
Tous ceux qui ont été directement ou indirectement frustrés ou bien ont mal pris cette démarche parce que n'avoir pas été suffisamment avertis ou pris en compte, eh bien, nous leur demandons, nous leur présentons nos excuses. Mais, attendons-nous bien, non.
Allô? Allô? Voilà, oh là, je pense qu'on l'a perdu, mais on va tenter de le joindre de nouveau. Mais justement, heureusement, Tchenya Massari Losolilou a également participé, hein, à cette réunion de création de cette coalition de la diaspora Cogito, si je me trompe. Alors, Tchenya Massari Losolilou, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes président du MTN Mouvement pour un Togo nouveau, vous êtes également chargé à la communication de la Diastocade. Et là, la nouvelle coalition, vous êtes chargé à la commission politique et stratégie. Et j'ai envie de vous poser cette question. Comprenez-vous pourquoi d'aucuns de la diaspora s'opposent-ils à la participation de la diaspora au futur dialogue? Ou encore, pourquoi on taxe de traîtrise cette coalition que vous venez de mettre en place à Paris?
Merci donc pour l'occasion de pouvoir clarifier les choses. Tout d'abord, je voudrais dire que la coalition qui a été mise sur pied à Paris, j'y ai participé personnellement en tant que président du mouvement pour un Togo nouveau, mais aussi en tant que porte-parole de la diaspora togolaise pour la démocratie. Donc, j'ai participé à tous les travaux, j'ai été témoin de toutes les décisions.
Attends, je vous reçois mal. Est-ce que Clépiaïté est encore en ligne? Clépiaïté, vous êtes en ligne?
Oui.
D'accord.
Oui, je suis toujours en ligne.
D'accord.
Oui.
Puisqu'à un moment donné, je pense que le réseau dérangeait. Allô, Tchenya Massari Losolilou, continuez, s'il vous plaît.
Comment?
Je disais que.
Oui. Allez-y, allez-y.
Je disais que la coalition de Paris, j'y ai personnellement donc participé en tant que président du mouvement pour un Togo nouveau, mais aussi en tant que porte-parole de la diaspora togolaise au Canada pour la démocratie. Et nous étions à Paris une délégation très forte constituée du président de la Diastocade, de moi-même, de mademoiselle Akofa et aussi du doyen Alexis, et également d'un représentant du CEMA. Non, en fait, on a participé aux travaux, on a proposé l'ordre du jour, et donc nous sommes très enclins nous soutenons absolument le travail qui a été fait. Oui. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut souligner. D'abord, c'est que aujourd'hui, face à la volonté du peuple togolais
d'obtenir absolument, d'exiger le départ de Fonia Singbe, le retour à la Constitution de 92, nous devons nous mobiliser davantage et intensifier nos mouvements. Dans ce sens, l'idée, justement, de mettre en synergie toutes les forces de la diaspora devient un impératif. Donc, nous devons nous unir, nous devons trouver un cadre où toutes nos énergies peuvent être mises au service de la lutte autour. Donc, il ne s'agit pas de créer un nouveau mouvement, comme les gens, certaines personnes l'ont laissé entendre, mais plutôt de mettre en coalition, de mettre en synergie toutes nos énergies, toutes les énergies de la diaspora togolaise. C'est ça l'idée. La manière peut être discutable, dans la mesure où ça a été fait de façon assez précipitée, et aussi la plupart ou certaines personnes n'ont pas eu l'information. Donc sur ce point-là, nous en excusons, mais il faut comprendre que ça ne devait pas jeter du discrédit. La manière ne doit pas, la façon dont ça a été fait ne doit pas jeter du discrédit sur ce travail qui a été fait. Nous devons féliciter nos camarades de France, la CMDT, qui ont pris l'initiative et qui ont essayé, dans la mesure du possible, d'associer le plus de monde possible. Il y a deux problèmes qui se sont posés. Le premier problème, c'est que beaucoup de personnes ont été informées, mais ces personnes-là n'ont pas eu nécessairement la possibilité ni le temps de participer puisque la réunion était fixée sur le 9. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, étant donné que dès le début de la lutte, le 19 août, il y a des différentes plateformes, des regroupements de Togolais dans les villes de la diaspora. Et certains sont plus actifs que d'autres. Alors, pour le premier pas, il faut commencer quelque part. Et donc, les organisations les plus actives de la diaspora, les personnes ressources et aussi les différents mouvements qui se font dans les différentes villes, la plupart ont été
contactés. Oui, je vais vous couper tout de suite là parce que je vous poserai la même question qu'un Togolais lambda de la diaspora peut vous poser. Comment vous êtes arrivé, sur quelle base vous avez choisi ces mouvements que vous jugez qui sont plus actifs que d'autres, Nyamasali Losonelou?
Non, ce que je veux dire, c'est que il faut, le problème qui s'est posé, il faut commencer quelque part.
D'accord.
Tout le monde est d'accord sur le principe. Le défi impératif de mettre en synergie toutes les forces de la diaspora s'impose. Maintenant, il faut commencer quelque part. Où commencer? C'est toute la question. À partir de là, il y a déjà des organisations plus ou moins connues dans la diaspora. Il y a des personnes ressources. Il y a des différentes plateformes qui ont été créées. Il y a des mouvements dans les différentes villes de la diaspora. Donc, l'idée est d'amener progressivement tout le monde à pouvoir s'organiser et à aller vers une rencontre physique dans une ville de la diaspora. C'est ça l'idée. Maintenant, il faut commencer quelque part, comme je l'ai dit, et la CMDT, qui est une organisation qui a fait beaucoup de travail, il faut le reconnaître, cette organisation a utilisé son carnet d'adresse, n'est-ce pas, pour solliciter les uns et les autres. Et comme vient de le dire le porte-parole de la coalition, on s'excuse si certaines personnes n'ont pas reçu l'information en temps et lieu.
Vous voyez?
Mais il faut, ce que nous voulons dire essentiellement, deux choses. La première, c'est que cet effort-là est louable. Il ne faut pas jeter du discrédit parce que tout simplement, on n'a pas participé ou on n'a pas on n'a pas été invité. Ça ne suffit pas pour jeter du discrédit sur le travail des personnes honnêtes qui ont investi leur temps, leur énergie et leur propre argent. Ça, c'est un. De deux, c'est un premier pas. C'est un premier pas. D'autres rencontres, c'est un premier pas pour jeter les bases de la structuration de la diaspora. Et donc, il y a du travail à faire. Alors, on demande à toutes, et dans le communiqué, ça a été clair, on demande à toutes les organisations de la diaspora, on demande à toutes les personnes de bonne volonté, on demande à tous les Togolais de la diaspora de pouvoir rejoindre la barre pour construire quelque chose qui est à la hauteur et qui est à l'image de toute la diaspora togolaise, il ne faut pas oublier, qui est dispersée, éclectique,
Tout à fait.
Et qui est géographiquement assez dispersé.
D'accord.
Maintenant, alors aller de là, et c'est ça là, ce que nous dénonçons, c'est la mauvaise foi. Aller de là pour dire que ce qui a été créé à Paris, et c'est l'erreur fondamentale de notre camarade Oumoulou, aller de là pour affirmer sans preuve que ce qui a été créé, c'est parce que ça vient de RPT Unir, c'est complètement nuire.
En fait, il a pas dit tout dru comme ça. Il dit que ça peut, cela, la façon, la manière de convoquer cette nuit, ça peut s'apparenter à une réunion stratégique du pouvoir RPT Unir. C'est ce qu'il a dit.
Il n'en est rien. J'appelle un démenti formel. Il n'en est rien du tout. Il faut plutôt apprécier.
D'accord.
Le premier pas. De nos,
je vous comprends. Je vais relancer.
Ils ont créé cette initiative. Cette initiative n'est pas encore moulée dans le béton. C'est juste un premier pas.
D'accord.
C'est dans le sens de ce défi de structurer la diaspora.
En tout cas,
nous demandons à toutes les personnes volontaires de rejoindre là-bas pour en construire quelque chose de nouveau.
D'accord.
Au lieu de critiquer la première démarche. Parce que si nous faisons ça.
On va avancer. Je vous comprends, Thi. Hein. Moi, j'ai tout compris. On revient toujours sur la même chose. Là, je suis obligé de vous couper. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure parce que il nous reste que 20 minutes. Je vais devoir relancer Crépiaïté du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise qui a convoqué cette réunion pour la création de cette coalition de la diaspora. Vous venez de le dire tout de suite, hein, et Crépiaïté, vous l'avez dit, hein, vous présentez toutes vos excuses à la diaspora togolaise qui ne sont pas des citoyens de la diaspora qui ne sont pas informés de cette réunion comme il faut. On va avancer. Crépiaïté, alors là, justement, ce dernier remue-ménage au sein de la diaspora autour de la rencontre de Paris n'est-il pas la preuve, sans langue de bois, de la persistance de l'éternel guéguerre, de leadership ou d'ego au sein de la diaspora togolaise? Alors, comment la coalition, à travers le CMDT, compte-t-il résoudre ce problème, la Crépiaïté?
Oui, merci pour ta question. Je pense que cette question-là ne me convient pas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les Togolais de la diaspora sont nombreux à être mobilisés pour ce pays.
Tout à fait.
Et dans nos rangs, nous avons des hommes et des femmes remarquables qui ont donné du temps, qui ont donné de leurs moyens, de leur propre argent au service du Togo. Nous ne sommes pas l'État togolais, mais des citoyens, des individus, des groupes d'individus se sont mobilisés de façon inimaginable pour le Togo. Ceux qui sont militants de longue date, ça on sait que c'est leur engagement de toujours. Mais devant la crise togolaise, de nombreux Togolaises, grâce par exemple au mouvement Togo Debout, qui était cette diaspora silencieuse, se sont mobilisés. Donc, je pense que moi, j'ai rencontré des hommes et des femmes debout, mobilisés pour le Togo. Il n'y a pas de guerre d'ego. Il y a des engagements qu'il faut respecter.
Justement, Crépiaïté, avant de continuer, peut-être la question qui fâche, n'est-ce pas la légitimité du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, à s'occuper de l'organisation de l'offensive ou de l'implication diasporique dans la crise togolaise qui est mise en cause, Crépiaïté?
Non, il me semble que le CMDT est empreint d'un certain nombre de valeurs. Et peut-être que c'est notre faiblesse, nous avons beaucoup d'humilité dans ce que nous faisons. Nous pensons que l'action que le Togo et les Togolais doivent mener doit être des actions fortes, mais des actions d'humilité, parce que nous pensons que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons au service du Togo. Maintenant, une question très claire. Les leaders autoproclamés de notre diaspora, ça ne peut pas marcher. Dans nos rangs, au CMDT, nous élisons les hommes et les femmes pour pouvoir diriger notre mouvement. Et ce qui s'est passé le 9 l'a montré très bien. Nous avons rencontré des hommes et des femmes résolus, ouverts, à l'écoute et humbles. Nous devons ensemble apprendre de l'humilité par rapport aux actions du Togo, c'est-à-dire savoir que ce que nous demandons au Togo doit être mené collectivement. Il n'y a pas un individu qui puisse porter tout ça. Ce sont des équipes qui doivent être au service du Togo. Et donc, chaque fois que les Togolais agissent, ils doivent penser collectif, équipe et résultat garanti. Donc, cela étant au niveau du principe, je nous invite, nous, au CMDT, à continuer à travailler un, on l'a proposé l'année dernière dans le cadre du Parlement de la diaspora togolaise, où des hommes et des femmes doivent venir discuter des principes, apprendre à discuter et à prendre des décisions. Deux, nos commissions de travail servent à affiner et à faire des propositions. Deuxième étape et troisième étape, naturellement, les dirigeants vont émerger. La diaspora regorge d'experts dans tous les domaines. La diaspora regorge de dirigeants dans tous les domaines, dans le monde entier. Nous devons potentialiser ces expériences au service du Togo. Donc le CNDT travaille avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, mais beaucoup d'humilité. Et peut-être bien que cette humilité-là n'est pas la règle de tout le monde, parce que parfois, de temps en temps, on a du parisianisme. Cette volonté de penser que, eh bien, dès lors qu'ils pensent les choses, eh bien, la province n'a pas des choses à dire. On a parfois des gens qui viennent de grandes nations et qui se confondent avec ces grandes nations. La question n'est pas là. Le Togo a besoin de dirigeants, eh bien, capables, ouverts, humbles. Cette humilité-là doit être la règle de tout ce que nous faisons. Et nous, au CMDT, nous défendrons toujours cette humilité parce que ce que nous ne le faisons pas pour nous, en tant qu'individus, nous le faisons pour le Togo. Et nous n'avons pas vocation, si le Togo a les dirigeants qu'il faut sur place, à nous substituer à eux. Nous avons vocation à les encourager, à prêter main forte. Donc c'est un rôle qui est un rôle, a priori, ingrat. Servir sans se servir. Faire les choses et pousser des hommes et des femmes devant pour que ça puisse marcher. Eh bien, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, mais le CMDT a toujours œuvré comme ça. Et c'est ce qui fait notre spécificité, agir pour le Togo sans rien entendre en retour.
Ok.
Pour nous.
Allez-y, allez-y, Clipéité.
Et dernier point, je nous invite, chaque fois que des hommes et des femmes du Togo agissent dans une organisation, à pouvoir passer au-delà. La coalition a vocation aujourd'hui à pouvoir renforcer notre lutte, à créer cette synergie et pouvoir, amplifier l'efficacité au service de notre cause. La cause Togo nécessite à un moment donné de se dépasser. C'est aussi un travail que nous nous demandons aujourd'hui. Donc, le CMDT travaille, mobilise, œuvre, concerte pour que les hommes et les femmes du Togo puissent aller. Maintenant, si nous décidons collectivement qu'il nous faut désigner, élire des dirigeants qui peuvent nous représenter, c'est une autre étape. Mais cette étape est presque naturelle, puisque ceux qui travaillent comme à Bonn, comme dans notre mouvement, notez quand même qu'en 9 ans, nous avons déjà eu 3 coordonnateurs. Hein, ça montre la vitalité démocratique de notre mouvement. Eh bien, d'autres mouvements font la même chose. Les dirigeants seront élus naturellement pour pouvoir nous représenter parce qu'ils ont l'expérience, ils connaissent les sujets et nous sommes, nous, allés au-devant des Togolais là où ils sont. Ce n'est pas quand même la spécificité de tous les Togolais.
D'accord.
Et il me semble qu'aujourd'hui, la règle qui se pose, c'est que chacun a sa place, mais en équipe. C'est d'une équipe dont on a besoin, pas de dirigeants uniques qui ne raisonnent que par rapport à eux, uniquement par rapport à eux, et toujours par rapport à eux. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas demain.
Merci Clipé Haïté, nous avons encore une dizaine de minutes. Tché Nyamasadi Losonilou, vous avez participé à la création de cette coalition, vous êtes chargé à la commission politique et stratégique de cette coalition, vous êtes également président du MTN, vous êtes également chargé à la communication de la Diastrocade au Canada. Alors toute une polémique autour de cette coalition à Paris, et tout à l'heure vous avez présenté vos excuses à toute la diaspora togolaise, c'est une très bonne action. Alors là, le mal est fait. Comment corriger ce mal? Comment mettre maintenant la diaspora togolaise en confiance? Puisque il y a un flot artistique autour de cette coalition là, Tché Nyamasadi Losonilou.
Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, c'est qu'on remette la balle à terre, ok, et que sereinement on regarde les choses, sans rentrer dans l'émotion ou sans accuser, sans preuve, etc. Parce que nous avons tendance, nous Togolais, quand nous ne sommes pas sûrs de quelque chose, on fait partie d'une rumeur comme quoi ça vient du régime de Fogg à Singé, c'est vendu, etc. Ils ont été achetés et à partir de là, il y a toute une nébuleuse qui est créée. Et l'idée de l'adversaire aussi, c'est de semer la confusion dans les esprits.
pour décrédibiliser toutes les actions honnêtes qui ont été posées. Donc, sur ce point, j'appelle quand même chaque Togolais à faire preuve de discernement et de réflexion en laissant l'émotion de côté.
D'accord.
Okay. Alors, j'ai dit tout à l'heure que oui, l'idée, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est un consensus général dans la diaspora, de mettre en synergie nos forces et de coaliser nos capacités. C'est un défi. Maintenant, comment le faire? Comment procéder? Alors, nos camarades de CMDT ont proposé un cadre. Et donc, et une réunion physique pour pouvoir le faire. La Diastocad, donc les Togolais au Canada, ont proposé l'agenda. Okay. Et nous avons alors la CMDT n'a rien imposé au cours de cette réunion. C'était un débat. Okay. Et non seulement d'abord pour situer les choses, non seulement les Togolais de France ont participé. Il y a une délégation qui est venue de Lyon. Les Togolais d'Allemagne ont participé. Une délégation venue d'Allemagne, une délégation venue de la Belgique. Les Canadiens, une forte délégation du Canada a participé, les Togolais sont venus des États-Unis, notamment l'île de Nevis. Donc, quelque part, ce n'est pas deux ou trois personnes qui se sont réunies pour décider d'une coalition, mais il y a un travail de fond préalable. Et ce travail-là, c'est vrai, comme on vient de le dire, c'est pas tout le monde qui a été associé dès le départ et nous en excusons. Maintenant, regardons froidement les choses. Qu'est-ce qui a été fait à Paris? Un, c'est une coalition, c'est-à-dire mise en synergie des forces. C'est ça, c'est une coalition. Chaque organisation de la diaspora garde toute son indépendance. Ça, c'est un premier point. On a besoin de cette coalition. Deuxièmement, rien n'a été coulé dans le béton. On a proposé un comité de pilotage. Et ce comité, donc, il n'y a pas eu même pas de bureau. Pour que les gens déjà se positionnent, pensent que ces gens-là sont en train de chercher des postes. Non, il n'en est rien. C'est juste un comité de pilotage qui doit amener, qui doit réfléchir, qui doit travailler à la mise en place de toute la situation de la diaspora. Et ce comité de pilotage, on a proposé la direction au docteur Amouzou, de par son expérience, de par son âge et de par sa sagesse. Il a accepté de l'assumer que pour 3 mois. Seulement pour 3 mois, voyez-vous. Donc, avant de pouvoir commencer par jeter du discrédit de la thème, nous regardons les choses froidement. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'est décidé? Et maintenant, écoutons la déclaration. La déclaration est claire.
On comprend.
Non, non. C'est important la déclaration.
Il nous reste encore 10 minutes.
Écoutons la déclaration. La déclaration dit essentiellement que les Togolais de la diaspora c'est non négociable. Le départ de Fon Yassine. Ce n'est pas une revendication non négociable. Le retour de la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Donc la diaspora dans son ensemble appuie ses revendications sans forme de procès.
Vous ne pouvez pas demander le départ de Fon Yassine et en même temps travailler pour unir, ça c'est clair.
Absolument. Donc, en lisant cette déclaration-là, il n'y a rien qui doit amener les gens à se mettre en porte-à-faux. Voyez? Donc, Et enfin, on a proposé un cadre où chaque région, l'Amérique, chaque continent devait avoir un délégué. Ces postes-là ne sont même pas encore pourvus. Donc, il y a du travail à faire. S'il y a des énergies, s'il y a des forces, regroupons-nous, continuez pas à travailler pour qu'à la prochaine réunion, à laquelle tout le monde sera convié, nous puissions asseoir cette situation, qui puisse défendre la diaspora. Parce que nous avons quand même des enjeux importants. Le groupe de la diaspora reste à structurer, à analyser, à proposer le cadre législatif, le cadre technique et les conditions de son application. Donc, vous voyez, et la lutte n'est pas encore finie. Là, on n'a pas encore fait partie fort. Donc, c'est quelle stratégie nous allons utiliser pour pousser et aider le peuple togolais à faire partir Fon Yassine. C'est ça la grande dynamique de
tout à fait.
Donc, laissons les petites familles de côté.
On comprend.
Et quelqu'un qui n'a pas participé ne doit pas être frustré parce que j'ai participé, je vais jeter du disque. Dire à ce qui a été fait.
Non, d'accord. En tout cas, pour information à toutes nos auditrices et auditeurs de cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Avulete, également à tous les compatriotes togolais combattants de la liberté. Et nous, en tant que médias, nous étions informés depuis au moins pratiquement quelques jours au niveau de la CEMA, de coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise, dont et moi personnellement je suis également membre, puisque avant tout je suis également membre de la diaspora togolaise. Nous étions informés, voilà, et c'est que cette réunion a été préparée d'une manière un peu précipitée, c'est le seul bémol, mais on va quand même continuer. Crépiaïté, tout ce que veut le peuple togolais, la diaspora, c'est l'alternance au Togo, le départ immédiat de Faure Gnassingbé, disent et d'autres. Et comment mener ce dialogue-là? Alors, face à cette grave crise que peut être, pour conclure cette émission, quels sont les objectifs principaux de cette nouvelle coalition que le CMDT vient d'initier samedi dernier? Crépiaïté.
Oui, les objectifs principaux sont au nom de 4 ans. En externe et en interne, un certain nombre qui ont déjà été rappelés, à savoir créer la synergie, impliquer les mouvements, défendre des intérêts communs. Et en externe, nous portons les revendications du peuple togolais, le départ de Faure Gnassingbé, ça a été dit clairement, nettement, le retour à la constitution de 92, ça a été dit clairement, et également le vote de la diaspora, ça a été dit également, et faire en sorte que la diaspora, eh bien, soit partie prenante de cette dynamique qui est enclenchée au Togo, que nous soutenons, que nous avons portée depuis toujours, depuis le départ. Et avant le 19 août, nous avons déjà travaillé, nous travaillons depuis 2017 à travers le CMDT à ce qu'advienne au Togo cet état de droit que nous appelons. Je nous rappelle quand même que ces deux revendications de Monsieur Tipi et aujourd'hui de la coalition des 14 fait partie des revendications du CMDT posées à la conférence de Bonn et au congrès de Bonn. Et donc, c'est une revendication, je dirais, presque séculaire de cette diaspora à travers le CMDT. Donc, voilà ce que nous avons fait ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes plus nombreux à partager ces objectifs-là qui sont déclamés et posés sur la table et qui nous rassemblent, voilà, au-delà de nos spécificités, de nos organisations.
En tout cas, merci beaucoup, oui. Crépi Haïté.
Je voudrais réagir.
Oui, je sais. Je vais donner la parole également à Tchèque pour conclure cette émission pour 2 ou 3 minutes. Merci beaucoup, Crépi Haïté. Vous êtes.
Bonjour à Tchèque. Merci beaucoup pour ton implication active dans notre réunion.
Merci beaucoup, Crépi Haïté du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Eh bien, Tchèque, Losson Yamasali Elou. Que direz-vous pour conclure cette discussion sur la polémique autour de cette nouvelle coalition? On vient d'écouter Crépi Haïté sur les principaux objectifs de cette nouvelle coalition face à la grave crise. Mais malgré cela, on vous taxe de collaborateur de UNIT. C'est pas quand même juste. Hein. Il faut qu'on soit clair. Vous demandez le débat pur et simple de Faure Gnassingbé, comme le réclame également le peuple togolais. On vous tente d'unir, on comprend un peu votre colère. Que direz-vous à toute la diaspora togolaise nombreuse à l'écoute de cette émission?
D'abord, je voudrais féliciter toute la diaspora togolaise pour leur mobilisation. Chaque Togolais dans son coin est mobilisé pour le départ de Faure Gnassingbé. Nous leur tirons chapeau. Dans le sens justement de l'efficacité de la lutte, nous avons estimé qu'il est important que nous puissions avoir un cadre plus ou moins structuré où toute l'énergie de la diaspora togolaise doit être concentrée pour plus d'efficacité et le soutien au peuple togolais qui brave toute la répression sanglante de la soldataille de Faure Gnassingbé, il ne faut pas l'oublier. Donc notre soutien du point de vue financier, du point de vue moral et tout ça, et il faut organiser l'effort de guerre. Et dans ce sens-là, c'est la mise en synergie de nos forces est absolument fondamentale. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière a été précipitée parce que c'est le terrain. C'est l'accélérateur de particules, c'est la dynamique sur le terrain. Donc, nous avons estimé que si nous prenons, disons, 6 mois ou 1 année à organiser la diaspora, et alors que les choses, on a besoin que la diaspora réagisse rapidement, maintenant, face à la situation, on risque d'être dépassé par les événements. C'est ce qui a justifié qu'on est allé très très vite à mettre en place. Donc,
ça peut se comprendre aussi.
Comme on l'a dit, rien n'est coulé dans le béton. Il y a la réflexion continue, il y a des commissions dont j'invite toutes les têtes. Je sais qu'il y en a beaucoup de compétences, de têtes, d'intelligence dans la diaspora. On les invite à prendre ce bébé-là qui est né peut-être dans des conditions critiques, mais qu'on ne peut pas jeter le bébé et l'eau de bain. Qu'on le prenne, s'il a des problèmes, qu'on le règle et qu'on en fasse un instrument de fierté dans lequel tous les Togolais de la diaspora vont se retrouver. Et maintenant, cet instrument de fierté, qu'on le mette à la disposition de la lutte et du peuple togolais pour les fondamentaux, c'est-à-dire le départ immédiat et sans condition de Frodo Yassingbé, le retour à la condition de 92 et le vote de la diaspora. Maintenant, nous avons du travail à faire. C'est-à-dire que si on nous demande aujourd'hui, OK, le vote de la diaspora, comment ça va s'organiser? Comment les cadres législatifs, les conditions de l'application de sa modalité, mais c'est à nous, diaspora, de travailler sur le dossier et de proposer quelque chose, d'être une des forces de proposition. Et ce travail-là, nous devons s'y attacher. Donc, on demande à toutes les compétences de prendre contact avec la coalition et les organisations qui ne sont pas là-dedans, de rejoindre donc la coalition. Et on a un site internet qui s'appelle www.codi-togo, donc C-O, di-togo.org. Alors là, vous pouvez avoir tous les contacts, toutes les questions seront répondues.
D'accord.
Maintenant, les fondamentaux, on vient de les dire. Maintenant, il faut aller vers la stratégie. Donc, l'effort de guerre est important. Nous devons mobiliser nos moyens financiers pour soutenir donc le peuple togolais, les blessés, les prisonniers sur le terrain.
Tout à fait.
Et nous devons également être des fortes propositions pour les 14 partis.
Merci.
Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous
d'accord,
finit au...
D'accord, on sera coupé.
Notre objectif n'est pas de se précipiter pour aller à une quelconque négociation.
On comprend, Thierry. On a beaucoup communiqué sur ça.
Avec la société civile et l'effort démocratique.
Merci. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Nous ne pouvons que nous donner ce conseil. Taisons les blablabla. Le Togo a besoin de nous tous. On ne peut pas avoir 1000 chefs dans une association. Donc, du coup... Taisons blablabla, le Togo a besoin de nous, diaspora togolaise. Novio, à volonté. On se retrouve en continuité toute la semaine sur Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Bonsoir.
Hello,